Aujourd'hui, dans cette deuxième leçon, nous allons aborder finalement ce qui est un héritage assez étonnant de l'épicurisme ou de l'hédonisme en général, à savoir ce que l'on appelle l'utilitarisme. D'une certaine façon, l'utilitarisme répond à l'une des objections que nous avions posées à l'hédonisme, à savoir que le point de vue épicurien était un point de vue trop individuel, du moins dans la lettre à Ménécée, puisque ce n'est que le texte qui nous reste, et que on l'avait vu à propos de la question de la mort de soi ou la mort d'autrui, vous voyez, le fait que Épicure, ne considérant la question de la mort qu'à partir de la mort de soi, on avait là l'indice de la recherche finalement d'une autarcie, mais qui est commencée finalement par un repli sur l'individu, par une sorte de dégagement des affaires politiques. Or, dégagement, enfin, je pourrais même dire désengagement, mais bon. Or, l'utilitarisme est au contraire une doctrine qui va naître à l'intérieur d'une réflexion politique. Le père de l'utilitarisme anglais, il y en a deux, hein. Il y a John Stuart Mill, mais il y a surtout Jeremy Bentham. Jeremy Bentham est un avocat et s'interroge donc non pas sur une morale individuelle, mais sur des principes de législation. D'ailleurs, une de ses œuvres les plus célèbres s'intitule Le Panopticon. C'était un projet architectural de prison où on pouvait avoir le minimum de geôliers pour le maximum d'efficacité. L'idée, c'était de créer, vous voyez, un dispositif circulaire où le geôlier était plutôt vers le centre et il voyait en transparence, d'une certaine façon, toutes les cellules. C'est très intéressant parce que ce projet a été rendu complètement réel, même par-delà les murs, grâce au système sécuritaire, des caméras, etc. Mais il savait que la question de la prison était une question optique. C'est la première chose qu'il remarque. Et c'est intéressant de voir comment l'intrusion des caméras de surveillance, justement, correspond à ce problème-là. Donc, quelqu'un qui se pose des questions sociales, des questions politiques, et donc qui n'a rien à voir avec la question de la recherche individuelle, simplement, du bonheur. Mais si l'utilitarisme de Bentham répond à une objection qu'on pouvait faire à l'épicurisme, il en est aussi l'héritier. L'héritier parce que Bentham va faire de la question du plaisir et des peines le principe fondamental de la morale aussi. Tout homme recherche son plaisir, cherche à maximiser son plaisir. Ça, c'est un principe où tout homme agit en vue de son intérêt. Et donc la question de l'acte moral, c'est la question de ce qui est utile pour mon intérêt, pour mon plaisir. C'est pour ça qu'on va abandonner le terme hédonisme et qu'on va passer au terme utilitarisme. Mais il n'en demeure pas moins que le principe reste le même. Cependant, et j'ai un peu anticipé là-dessus en parlant d'Épicure, et je lui ai sans doute causé du tort, en tout cas je lui fais un procès injuste, parce que Épicure parlait d'un discernement entre, vous voyez, autour du plaisir. Je cherche mon plaisir, mais je ne vais pas me jeter sur le premier plaisir venu parce que, peut-être que, etc. Et le terme qu'il employait, c'est le terme classique qu'on retrouve chez Aristote, qui s'appelle phronésis. Hein, la phronésis, c'est ce qu'on appelle parfois la sagesse, hein, mais c'est une sagesse dans l'ordre pratique, et qu'on a traduit dans toute la tradition latine par le terme de prudence. D'accord ? Eh bien, d'abord, chez Bentham, ce terme n'est plus la sagesse, mais à proprement parler, le calcul. Donc on passe vraiment d'un discernement moral à quelque chose qui se manifeste explicitement comme un calcul. Et l'autre aspect de l'utilitarisme, c'est pas simplement qu'il se préoccupe de questions sociales, voire même globales, c'est aussi qu'il est issu, on pourrait dire, du croisement de l'hédonisme, dont un des derniers héritiers sera par exemple Helvétius. Hein, est-ce qu'il, je ne sais pas pourquoi il s'appelait Helvétius, il était suisse. Enfin, je... Helvétius, en tout cas. Très aimé par Michel Onfray, par des gens comme ça. Vous voyez, bon, un auteur du XVIIIe siècle. Et donc ça, c'est la lignée hédoniste, mais aussi la rencontre avec les sciences modernes. Avec notamment cette idée que les mathématiques sont la forme de la science. Et tout l'enjeu de l'utilitarisme, c'est de proposer une morale de type scientifique, c'est-à-dire la possibilité de calculer l'acte moral, comme un optimum. Et ça, c'est un point très important. Parce que l'utilitarisme va être la base, d'une part, des théories économiques libérales. Tout individu cherche son profit, cherche à maximiser son plaisir. Vous voyez, c'est intéressant hein, que les théories économiques libérales découlent de l'hédonisme et de via Épicure. Vous voyez, mais sauf que c'est un Épicure qui a un peu perdu la tête parce que, à la limite, on pourrait chercher les beuveries, les choses comme ça. Vous voyez, bon. Donc il y a un aspect comme ça. Tout individu cherche à maximiser son profit. C'est un individu, voilà. On retrouve ça, ça va passer, ça va transiter par le libéralisme de Bentham, parce que Bentham est un des pères fondateurs aussi de la pensée libérale. Il fera une apologie, par exemple, contre, vous voyez, certains principes de l'Église, par exemple, une apologie de l'usure. Le prêt à intérêt est pour lui une chose magnifique qu'il faut permettre, après tout, tout le monde est libre de prêter son argent au taux qu'il veut. C'est un contrat. C'est un contrat. S'il n'y a que des individus, il n'y a que des contrats. Vous voyez, l'Église interdit l'usure. Elle l'interdit toujours, hein, je vous le rappelle. La condamnation de l'usure n'a jamais été levée. C'est une question très intéressante. Hein. Maintenant, les sanctions, est-ce qu'on est toujours excommunié parce qu'on pratique l'usure? Vous voyez, ça ferait qu'il y aurait beaucoup de gens dans le monde de la finance qui seraient excommuniés. Hein. Mais enfin bon. Il n'en demeure pas moins que... Alors, l'Église autorise un prêt avec un intérêt qui constitue le coût de l'argent, c'est-à-dire en lien avec l'inflation. Mais c'était ça qui était, au bout d'un moment, permis. Mais l'usure restait toujours condamnée. D'ailleurs, c'est très intéressant, vous savez que dans le protestantisme, c'est une ligne de partage très forte. Luther maintient la condamnation de l'usure, Calvin la suspend. Et c'est comme ça qu'on a eu Genève. Et oui. Genève est fondée sur, vous voyez, la levée de l'interdit de l'usure par Calvin. Cette ville dépend justement d'un acte qui est, voilà, qui était d'ailleurs défendu, alors postérieurement, hein, parce que c'est un auteur à cheval entre la fin du 19e et le début, de la fin du 18e et le début du 19e siècle, Jeremy Bentham. Mais vous voyez, lui, il va en faire un principe de son libéralisme. Vous voyez, défense de l'usure, il écrit. Ou alors, il fait une apologie du... Enfin, une apologie... Il défend aussi le divorce. On peut divorcer. Si nous sommes avant tout des individus qui cherchent leur intérêt, il faut permettre aux individus de chercher leurs intérêts et désormais permettre à partir de ça une politique qui va faire en sorte qu'on va viser la maximisation de l'intérêt collectif, qui est la somme des intérêts particuliers, la somme, la satisfaction des intérêts particuliers. Donc on cherche, vous voyez, le bonheur total. Quand je dis total, c'est de tout le monde, c'est-à-dire c'est pas individuel. Sachant que dans certaines doctrines libérales, qu'on ne trouve pas directement chez Bentham, mais qu'on trouve ailleurs, il y a d'autres thèses. Par exemple, le fait que même poursuivre son propre vice individuellement est un bénéfice pour la totalité de la société. Vous savez que ça, c'est un des aspects des théories économiques libérales, c'est de dire nous allons suspendre complètement toute morale, que chacun poursuive son intérêt, et de toute façon, les vices particuliers font la prospérité générale. Vous connaissez, c'est la fameuse fable des abeilles de Bernard de Mandeville, un auteur anglais. Qui dit la chose suivante, en gros, hein, si vous enlevez, par exemple, la coquetterie des femmes, vue comme un vice, hein, ici, bon, vous savez que je suis un ardent défenseur de la coquetterie comme une vertu, mais là, on suppose que c'est une vertu, un vice, enfin bon, il faut distinguer entre coquetterie et coquetterie, disons, mais là, la coquetterie comme un vice, si vous enlevez la coquetterie des femmes, vous mettez au chômage un grand nombre de personnes. Vous voyez, pensez à tout ce qui relève de l'industrie de l'armement. Si personne n'avait envie d'assassiner son prochain, je parle simplement de l'envie, vous voyez, ce serait un effondrement de l'économie. Où serait la croissance, vous voyez? Donc, d'une façon générale, d'ailleurs, Mandeville dira, imaginez des marins qui débarquent au port après des mois de pleine mer. Qu'en serait-il de la vertu de vos filles, messieurs les puritains, s'il n'y avait pas des bordels pour assouvir, vous voyez, leurs besoins? Ah, donc, il faut qu'il y ait des maisons de prostitution, parce que, vous voyez, c'est ça qui permet de préserver la virginité de vos filles, sans quoi elles seraient menacées. Et toute cette idée que, qu'il y a, vous voyez, on a une vision vraiment globale avec une sorte de calcul où tout est pris en considération et on voit en plus parfois qu'il y a un écart entre ce qu'on va exiger de l'individu et le bénéfice collectif. Et dès lors, c'est ça ce que va dire le libéralisme, chacun cherche son plaisir, mais même s'il le cherche de manière vicieuse, ça bénéficie, vous voyez, à l'ensemble de la société. Que chacun soit égoïste, en gros. Et c'est même mieux. Vous trouvez ça dans plein de théories économiques. Je pense à, notamment à ce qu'on a appelé l'effet d'éviction. Vous savez, si jamais, c'est une grande théorie libérale pour dire, il ne faut pas aider les pauvres, il ne faut pas faire d'aumône surtout. Parce que quand vous faites de l'aumône, vous donnez de l'argent à un pauvre, ça va lui servir tout de suite, mais ce n'est qu'une vue à court terme. En revanche, si vous continuez à acheter les trucs que vous aimez, vous passez à côté du pauvre sans vous en soucier. Vous allez directement à la FNAC et vous achetez, par exemple, les lunettes 3D. Hein? Donc, vous achetez l'Oculus Rift de chez Facebook. Et là, vous investissez, en fait, vous donnez de l'argent à un secteur de pointe qui va se développer, qui va donc créer des emplois. Et donc, à long terme, c'est ça qui est le mieux. Vous comprenez? Oui. À long terme. Ça, c'est une chose qu'on ne voit pas tout à fait chez Bentham, parce qu'il y a vraiment l'idée quand même d'une certaine justice sociale qu'il faut établir chez lui. Il ne va pas jusque-là. Mais en même temps, en ramenant la morale à la recherche du plaisir, il propose une éthique minimale. Parce que qu'est-ce que c'est que le bien? Il le réduit au plaisir, on ne va pas chercher plus loin, on ne va pas faire des grandes théories. C'est simple, c'est le plaisir, point. D'accord? C'est minimal. Et d'ailleurs, à la fin, il va retirer le mot plaisir, il va même dire l'intérêt. Après tout, si tu es masochiste, ton intérêt, ce n'est pas immédiatement ton plaisir. En fait, tu prends ton plaisir dans des choses qui ne font pas plaisir. Donc, en fait, on va dire intérêt, c'est plus simple. C'est pour ça qu'il va quitter la sphère de l'hédonisme et qu'on va parler d'utilitarisme. Voilà. Alors, Éléonore, vous vouliez dire quelque chose?
Oui. Je trouvais qu'en fait, la vision n'était pas du tout dynamique. C'était assez statique, parce qu'en fait,
Dans la fable des abeilles, oui.
Dans la fable des abeilles, parce qu'en fait, on va mettre des gens au chômage, mais du coup, il va bien. Enfin, l'économie, justement, va se renouveler, va muter. En fait, on va créer un nouveau secteur d'activité qui pourrait potentiellement, qui a une chance d'être plus juste ou plus moral.
Vous voulez dire pourquoi est-ce qu'on développe finalement les lunettes 3D plutôt que les organisations caritatives?
Non, mais on parle toujours de la description créatrice et du coup, en fait, on pourrait penser qu'en fait, dans cette création, il y aurait quelque chose de meilleur.
Oui. Mais en même temps, l'idée, c'est qu'il faut faire marcher l'économie là où elle est le plus dynamique. Donc, ça reste quand même dans une logique de croissance. Or, il n'est pas du tout dit que la... C'est peut-être là la distinction, c'est-à-dire que l'aumône serve à la croissance. Non. Peut-être à la prospérité. Il faudrait distinguer prospérité et croissance, vous voyez, peut-être. Mais vous voyez, si vous voulez qu'il y ait de la croissance économique, il faut mettre votre argent dans des secteurs qui sont des secteurs, alors, dynamiques, comme vous dites, mais... Et c'est pour ça que c'est la vraie question, c'est quelle vision avons-nous de l'économie? Est-ce que la visée, c'est la croissance des biens matériels et que c'est ça, vous voyez, le critère? Ou alors, est-ce qu'il y a un autre critère? Pour Bentham, bien sûr, les biens matériels ne suffisent pas. Hein, comme... Alors, l'utilitarisme, c'est donc une doctrine très particulière et en même temps qui, aujourd'hui, reste à la mode, non seulement parce qu'elle vient appuyer, elle vient appuyer trois choses. D'une part, le libéralisme économique. D'autre part, le minimalisme éthique. Et enfin, la troisième chose, le cybernétisme. C'est-à-dire l'idée qu'on pourrait produire des robots éthiques qui pourraient calculer ce qui est la meilleure décision, entre guillemets, morale à prendre. Question qui se pose, vous savez, à différents niveaux, mais même, par exemple, c'est des choses qui existent déjà dans les logiciels financiers, par exemple. En fait, calcul, souvent, les opérations qui sont passées par ces logiciels vont beaucoup plus vite que ce que peut un homme. Hein. Vous pouvez imaginer, hein, si vous faites, vous pouvez faire beaucoup d'argent en très peu de secondes si vous avez une machine qui arrive d'une certaine façon à anticiper un mouvement en voyant à partir d'une légère variation. Vous voyez ? Et à ce moment-là, si vous avez beaucoup d'argent, beaucoup de trésorerie, elle va faire une transaction avec beaucoup et puis en quelques minutes ou en quelques... Vous voyez ? Vous allez gagner de l'argent. Donc là, la question, ce qu'on pourrait se dire, c'est est-ce qu'un robot est capable de parvenir à cela ? Il faut arriver à cette logique du calcul, des avantages, des inconvénients, etc. Et ça peut devenir une question éthique, puisque ça peut être une question aussi de à quel moment on va bloquer les logiciels de transaction en bourse, à quel moment... Parce que vous voyez, il y a des dilemmes moraux qui se posent. Ou alors, pour éviter des cracks boursiers. Hein. Oui ?
Sur le cybernétisme, il y a aussi la question de la voiture intelligente.
La voiture intelligente, bien sûr, qui peut se poser la question de dilemme entre... le conducteur, enfin, ou le passager, puisque le conducteur, c'est la machine, et une femme avec un landau qui passe. Admettons qu'elle aille plus vite pour appuyer sur la pédale et donc pour empêcher l'accident, mais, ou pour faire un braquage violent, peut-être que le dilemme sera, bah, qu'est-ce qui... Alors, vous voyez, il faut opérer un calcul d'ici, c'est ça. Il faut que ça soit calculable. Donc, le cybernétisme va de ce sens-là. Mais bien sûr, il y a aussi autre chose qui est très classique, qui est la question des drones. On en voit de plus en plus de drones qui contiennent des parties aussi automatisées hein, dans leur fonctionnement. Là, qu'est-ce que c'est ? Là, il y va de la vie des gens. Donc, ce qui rend l'utilitarisme assez séduisant, c'est aussi que c'est une morale pour les robots. Voilà. Puisque c'est une morale du calcul. Tout est ramené à un calcul à partir d'un certain nombre de paramètres. Donc on va arriver à des phrases assez étonnantes. Par exemple, je vous ai mis une phrase de Bentham. Ce n'est pas Bentham hein, qu'on va étudier, c'est un utilitariste vivant qui s'appelle Peter Singer. Mais chez Bentham, vous avez cette phrase que je vous ai mise en exergue, que je trouve vraiment magnifique. On peut définir le vice... un faux calcul des probabilités, une estimation erronée de la valeur des plaisirs et des peines. Autrement dit, celui qui fait le mal, c'est celui, d'après le système de Mann, c'est celui qui s'est trompé dans son calcul. C'est intéressant, tout est réduit à un calcul de probabilité. C'est une arithmétique morale fautive et nous avons la consolation, écoutez bien cette consolation hein, quand même de Bentham, parce qu'on voit bien qu'il cherche à être consolé quand même, que par l'application d'un juste critérion ou critérium, il est peu de questions morales qui ne puissent être résolues avec une exactitude et une certitude qui approchent beaucoup de la rigueur d'une démonstration mathématique. Voilà, là vous avez la définition. La morale doit se ramener à une démonstration mathématique. Donc on perd de vue ce que disait Aristote au départ. Attention, il ne faut pas chercher la même rigueur en morale dans les disciplines pratiques et dans les disciplines spéculatives. Là, il y a l'idée qu'il faut absolument identifier les deux et qu'en plus, ça peut nous consoler parce qu'en fait, grâce à ce calcul, on va pouvoir éviter un grand nombre de vices parce que le vice, c'est d'abord une erreur de calcul. Bon. Oui ?
C'est amusant qu'il utilise le terme « juste critérium ».
Oui.
Finalement, ça, il veut chasser la morale et quelque part, il est obligé de la réintroduire pour définir comment il optimise les...
Vous avez raison. Comment est-ce qu'il entend ce juste ? Est-ce que c'est un juste de la justice ou un juste de l'ajustement mécanique ? Parce qu'il faut bien voir que c'est ça, souvent. Hein. Des gens, dans les logiques libérales, on a l'impression qu'on est face à un calcul vectoriel ou un truc, et puis les forces contraires s'annulent et on a un résultat... qui est dans le sens de la croissance ou du bien commun. Vous voyez, c'est quand même ça qui est en jeu. Est-ce que c'est un ajustement ou c'est une justice ? En revanche, là où vous avez raison, c'est pour ça que j'ai insisté sur ce mot, c'est plutôt le mot consolation qui est révélateur. Pourquoi cherche-t-il une consolation ? C'est intéressant. C'est la recherche d'une consolation qui le pousse vers l'exactitude mathématique. Voilà, ça c'est un paradoxe qu'il faudrait... Parce qu'on pourrait... finalement guérir les gens des vices grâce de leurs vices, grâce finalement à une sorte de calculette éthique, quoi, qu'on leur implanterait dans la tête. On pourrait guérir les gens de leurs vices grâce à vraiment un petit robot, vous voyez, ou une calculatrice qui leur permettrait vraiment d'injecter d'abord tous les paramètres de leur existence et de parvenir à un optimum. La meilleure résultat. Et vous savez que c'est exactement aujourd'hui ce qui concerne, enfin ce qui tourne autour de ce qu'on appelle le quantified self. C'est-à-dire la question de vous savez, des types qui sont branchés, ils ont des vêtements intelligents. C'est-à-dire ils sont assez cons pour porter des vêtements intelligents, c'est ça ce que je veux dire ? Qui ne cessent de prendre leur pression artérielle, leur truc, leur machin, tout. Ils peuvent même eux-mêmes envoyer des informations pour dire leur humeur indépendamment, donc psychologiquement. Hein, voilà. Et à la fin de la semaine, ils lisent des diagrammes, voire même tous les mois des diagrammes. Et alors ils vous disent « Ah, j'ai découvert que j'avais toujours mieux le jeudi que les autres jours, par exemple. » Et alors ils disent « Ah, c'est vachement important parce que si j'ai un entretien d'embauche, il faut que je le mette le jeudi parce que je suis plus… » Bon, ils ne savent pas pourquoi parce que forcément, on est dans la logique de corrélation, mais pas d'explication. Et alors, c'est la machine qui fait ces corrélations pour eux et puis ils apprennent, alors la machine leur avertit par exemple « Ouh là là, vous avez le dos trop courbé, redressez-vous, vous voyez, toutes les 5 secondes. » Enfin, vous avez déjà des gens qui font ça, je crois, parmi vous, qui mettent leur iPhone là, sur leur bras là. Avant, on mettait des brassards nazis, c'était plus symbolique. Maintenant, on met l'iPhone sur le bras et on cherche à devenir un surhomme, vous voyez, avec son brassard iPhone, là, machin, en calculant sans cesse. Voilà. Et c'est ça qui est en jeu, vous voyez, dans ce calcul hein, du bien. Ici, c'est le bien-être individuel, mais c'est très important. À cette époque-là, au XVIIIe siècle, il y a cette convergence de l'hédonisme et des sciences modernes, et on est encore les héritiers de cela. Voilà. Oui ?
Mais pour le juste critérium, je reviens encore. Mais...
Oui, oui.
Même si on se ramène à un juste d'ajustement, il y a quand même un moment où il y a plusieurs choix qui sont possibles. Par exemple, à partir du moment où il y a plus d'une personne, entre deux personnes, est-ce qu'on choisit de maximiser la somme des deux utilités ?
Alors voilà.
Est-ce qu'on choisit d'augmenter le plus bas ? Est-ce qu'on choisit...
Ça va être les grandes questions qui vont se poser à l'intérieur de ce calcul. Donc on va voir avec Peter Singer, lui, l'état d'extrême simplification. Pour Bentham, il y avait l'idée de produire ce qu'il appelait un felicific calculus. Alors, c'est-à-dire un calcul félicifique qui produit la félicité, et pas simplement pour soi, mais dans un ensemble. Enfin, il va faire l'articulation entre soi et l'ensemble. Et alors, tout tourne autour du plaisir, mais ce plaisir va être soumis à sept aspects d'évaluation. Vous allez avoir la durée. Forcément, si un plaisir est plus long, on va le préférer à un plaisir moins long. Vous allez avoir l'intensité, avec cette idée que le plaisir plus intense l'emporte sur le plaisir moins intense. Vous avez la certitude. Eh bien, on va plutôt choisir ce qui est le plus probable d'advenir. Parce que si vous voyez, il y a une incertitude, on peut se dire que ça va être un truc long et très intense, mais les chances sont faibles de l'atteindre. Bon, peut-être mieux se rabattre sur quelque chose qui est plus certain. D'accord ? Encore d'autres éléments, la proximité, ou si vous préférez, la plus ou moins grande immédiateté de ce plaisir, forcément, c'est un critère. Hein, si c'est plus immédiat, si c'est plus proche, c'est quand même mieux. D'ailleurs, ce n'est pas sans lien avec le critère précédent. La fécondité, est-ce que ce plaisir va être une source pour d'autres plaisirs à venir? Vous voyez, est-ce que c'est un principe de plaisir, générateur d'autres plaisirs? La pureté, ça c'était la grande question d'Épicure, est-ce que c'est un plaisir qui est plus ou moins pur? C'est-à-dire, est-ce qu'il entraîne avec lui des douleurs, des peines ou pas? On va choisir celui qui est le plus pur, c'est-à-dire celui qui entraîne le moins de peine. Vous voyez, c'est un peu l'autre aspect de la fécondité. La fécondité, c'est qu'il y a des conséquences dans l'ordre du plaisir. La pureté, c'est le moins de conséquences possibles dans l'ordre de la peine. D'accord ? Et puis enfin, et ça c'est un point fondamental qui excède complètement le domaine individuel, c'est ce qu'on appelle la portée. Et ce critère est très important pour Bentham, c'est-à-dire... quelle est l'extension du plaisir que je recherche? Est-ce que c'est que pour moi ou est-ce que c'est aussi pour autrui? Et si je suis pris finalement, je suis pris dans une société, je dois viser aussi à ce que mon acte m'affecte non seulement moi-même, mais aussi les autres. Et donc d'augmenter, on pourrait dire, le plaisir collectif. Mais l'idée, c'est qu'on partirait quand même, vous voyez, donc, Cette question de... On peut partir d'un point de vue individuel où chacun calcule, mais en même temps, si la portée devient un critère majeur, et c'est ce qui va se passer avec l'utilitarisme le plus récent, d'une certaine façon, on sort de l'individualisme, et la grande question morale, c'est comment agir de telle sorte, non pas que j'augmente mon bonheur, mais que j'augmente le bonheur collectif. Pas seulement le mien, mais aussi celui de tous, de tous ceux que mon action pourrait affecter. D'accord ? Ça va être ça la grande question. Oui, Nazareth ?
Donc la portée, ce n'est pas le partage de ce plaisir, mais les conséquences.
Oui, alors c'est dans des conséquences, mais des conséquences où je ne considère pas seulement mon plaisir, mais celui de tous. Voilà. Tous ceux qui peuvent être affectés par mon action. Voilà, je vous donne un exemple. Hein. J'ai 500 francs dans ma poche. Qu'est-ce que je vais en faire? C'est une question, parce que dois-je en faire? Donc, c'est une question morale. Est-ce que je dois les employer d'abord pour ma propre famille, etc.? Peut-être que c'est du surplus, peut-être pas la peine. Hein, est-ce que je dois faire en sorte que ces 500 francs soient partagés entre vous, ou le donner seulement à l'un d'entre vous, parce que si je le partage entre vous, vous aurez forcément moins. Vous voyez, chacun. C'est moins intéressant peut-être d'avoir 10 francs chacun, si vous voulez, que un qui a 500 francs. Peut-être, il y a des questions qui se posent. Est-ce que... Paul, oui, vous êtes d'accord pour avoir les 500 francs. Mais la question qui se pose, tout ça, l'horizon, qu'est-ce qui me permet de... Le critère, c'est est-ce que j'augmente... Quel est l'usage qui va augmenter, qui va produire le plus de bonheur au total? Vous voyez? C'est ça la grande question. Alors, vous pouvez dire, ben, c'est un peu bête, mais en même temps, vous pouvez dire, si je donne ces 500 francs à un riche, ça ne va rien rajouter, donc mieux vaut déjà les donner à un pauvre. Par exemple, on sait très bien que l'augmentation du plaisir, là, au total, sera beaucoup plus grande. Même au total, si je considère dans mon calcul le riche et le pauvre. Vous êtes d'accord? Admettons que mon action affecte un riche et un pauvre, donner 500 francs à un type qui est déjà très riche, ça ne va pas augmenter. Vous voyez, donc, mieux vaut donner aux pauvres. Vous voyez, ça n'aboutit pas, cette logique-là, à un truc complètement cynique. Hein. On arrive... Enfin, je pense que c'est moins que cynique, mais enfin... Mais enfin, bon, ça n'aboutit pas nécessairement à quelque chose de cynique. Voilà. Alors, cela pour vous donner, hein, pour vous expliquer comment ça marche. Un des ancêtres de cela encore... c'est le père de Marie Shelley, Marie Shelley, la femme de Percy Shelley, l'auteur de Frankenstein, d'ailleurs, à 19 ans, qu'elle a écrit sur au bord du lac Léman. Hein. À 19 ans, elle a écrit Frankenstein. Cette jeune fille, vous imaginez ce qu'elle a dans la tête, enfin bon. Qui est une grande œuvre de la littérature et une œuvre complètement méconnue, parce que les films qu'on en a fait passent à côté des enjeux de cette œuvre. Qui est une œuvre aussi critique de l'homme idéal, du bon sauvage aussi, tel qu'il est pensé par la Révolution française, parce que ce qu'on oublie souvent, parce qu'on fait souvent en Frankenstein une sorte de monstre, mais en fait il est très éloquent, et il apprend à parler la langue anglaise, non, je pense qu'il parle le français même, je ne sais plus ce qu'il parle, enfin en écoutant des gens à travers un mur, vous savez, et il connaît par cœur le Paradis perdu de Milton, il connaît le par cœur son essai sur les révolutions de Volney, etc. Donc des œuvres qui sont de la période, on pourrait dire, post-révolutionnaire et à la fois démocratico-romantique. Alors, vous voyez, c'est un grand romantique d'ailleurs Frankenstein, parce que quand il arrive vers son... Enfin, Frankenstein, le monstre. Parce que quand il arrive vers le docteur Frankenstein, quand il le retrouve, parce que lui, il l'abandonne, hein, il a tellement peur de ce qu'il vient de faire, il lui dit, écoute, fais-moi une femme. Ben, c'est ça, l'enjeu. Hein. C'est vraiment... Donc, bon, souvent, on l'oublie. Bon. Il reste que Marie Shelley est la fille de William Godwin, qui est un auteur d'un très gros livre qui s'appelle « De la justice », qu'on considère aussi comme un des pères de l'utilitarisme. Il vivait d'ailleurs avec une des premières grandes féministes de l'époque. Il vivait dans deux maisons séparées. Ils se voyaient uniquement quand ça leur plaisait. Et cette femme a eu Marie Shelley et elle est morte en couche, en fait, suite de l'accouchement de Marie. Hein, enfin. Et donc, William Godwin était un type, notamment, qui faisait beaucoup de dettes. Il demandait souvent à Percy Shelley, qui était un aristocrate, en échange de sa fille, de le laisser avec sa fille, il lui demandait, il lui tapait de l'argent, quoi. Et il remboursait jamais. Alors, moi, j'ai mon idée là-dessus. Parce que, vous savez, c'est William Godwin est l'auteur de l'argument du valet de Fénelon. Ouais, le valet de Fénelon, c'est ça, regardez. Il y a un incendie, et dans l'incendie, il y a Fénelon et son valet. Et vous pouvez sauver qu'une seule personne. Laquelle allez-vous sauver? Et Godwin dit, il est évident que vous allez sauver Fénelon, parce que Fénelon fera plus de bien à l'humanité que son valet. Il a plus d'envergure. Bon. Et cet argument, le valet, bon... Valet, quoi. Ça ne valait pas la peine. Donc, quelqu'un vous prête de l'argent, vous ne lui rendez pas, ce qui est logique. Parce que si vous êtes vous-même quelqu'un qui fait plus de bien à l'humanité que lui, parce qu'il va récupérer son argent pour quoi faire, vous pouvez dire, donc il n'y a pas à le rendre. C'est comme ça que vous épongez vos dettes. Vous voyez ? Parce qu'au total... L'idée, ce n'est pas de restituer à celui qui nous a prêté, c'est de faire en sorte que le bien-être général soit plus grand. Donc, si avec cet argent, vous voyez, plus grand bien-être général, c'est déjà... Ouais, S'il y en a moins, parce que vous devez le rendre, parce que vous avez... ça vous empêche d'écrire une œuvre qui va bouleverser l'humanité, vous voyez, ce n'est pas possible. Donc voilà, ça c'est très intéressant, le point de vue du bonheur collectif, on peut se le réapproprier pour son intérêt individuel, c'est ça qui est très intéressant, et ça on le voit dès le début de l'utilitarisme. Alors, l'auteur que nous allons aborder, c'est un auteur contemporain, vivant, qui enseigne, qui est d'origine, alors, il est australien, mais il est d'origine, ses parents sont d'origine juive d'Europe centrale. Donc Peter Singer, il s'appelle Singer comme par exemple le grand écrivain Isaac Bashevis Singer. Ça vient de ce Singer-là, hein, Singer juif. Mais aujourd'hui, il enseigne dans les plus grandes universités américaines, anglaises. Il est considéré comme un des maîtres de l'éthique contemporaine. Et même celui qui occupe la chaire d'éthique, je crois, à l'université de Fribourg, en faculté de lettres, c'est un disciple de Singer. Enfin, c'est d'après ce qu'on m'a dit. Il s'appelle Wolf. Et comme Singer, vous savez, est un des penseurs du mouvement pour la libération animale, et comme lui s'appelle Wolf, je me suis dit peut-être qu'il y avait un lien. Mais bon. Alors, comment va se déployer cette morale? Avant de le dire, je voudrais juste vous faire comprendre une chose. Singer est un rescapé, est un héritier, si vous voulez, de ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il a eu des parents qui sont morts, exterminés, pendant la Shoah. Et donc, cet événement-là frappe sa pensée. C'est tout à fait évident. Et notamment... c'est ça qui va le faire aller vers l'idée d'une éthique minimaliste. Parce que le problème, enfin c'est comme ça qu'il l'interprète, hein, du nazisme, entre autres, c'est que c'est une éthique maximaliste qui prétend définir qui est humain et qui ne l'est pas, qui est vraiment humain et qui ne l'est pas. Donc il y a une définition de la nature humaine et à cause de ça, on a éliminé des gens. Donc, Singer va dire, attention, toute manière comme ça d'une éthique avec une définition de la nature humaine a toujours causé des drames. Hier, les Noirs, est-ce que les Noirs étaient vraiment parfaitement humains ou est-ce que c'était des intermédiaires entre l'homme et le singe? Les Juifs, est-ce qu'ils étaient parfaitement humains ou c'était des intermédiaires ou des représentants d'une humanité cosmopolite proche des parasites finalement? Etc. Donc vous voyez, pour Singer, et les femmes aussi, hein, c'est une question, les femmes, est-ce que les femmes sont considérées comme du masculin dégradé? Et ça a été beaucoup le cas dans la société, donc il dit, attention, vous voyez, ça c'est la cause des grandes horreurs du XXe siècle et avant, et c'est contre cela qu'il faut penser l'éthique. Et vous voyez, sa déduction, c'est de dire, on avait une vision, on pensait au bien en définissant la nature humaine. Donc, il ne faut pas définir la nature humaine. Il ne faut pas dire qui est une personne, qui n'en est pas. Si on fait ça, on arrive à des choses désastreuses. Et alors, remarquez hein, que cet aspect-là vaut, pourrait valoir, pour l'embryon humain. Singer ne serait pas du tout du genre à dire « l'embryon n'est pas une personne ». D'accord ? Mais il ne serait pas non plus du genre à dire « l'embryon est une personne », vous comprenez ? Il essaye de déjouer cette manière de voir et d'essayer de penser l'éthique à partir d'autres principes. Et notamment, donc, un minimalisme. Il ne va y avoir que deux principes dans son éthique. Et tout va découler de ces deux principes. Alors, quels sont ces deux principes? Le premier, qui dérive directement du minimalisme, hein, c'est le conséquentialisme. on mesure la bonté d'un acte à ses conséquences. Oui, parce que si vous mesurez la bonté d'un acte au principe que vous avez suivi, vous pouvez être dans des grands principes, mais qui sont mortifères. Et vous voyez, il a cette crainte des grands principes. Hein, il se méfie des grands principes. Donc, on mesure un acte d'abord à ses conséquences. Toutes les citations qui se trouvent dans le texte sont tirées de son livre qui s'appelle « Questions d'éthique pratique », que vous pouvez trouver intégralement en anglais sur Internet. Oui ?
Par exemple, ça amène à avoir une espèce d'équivalence, par exemple, à laisser mourir quelqu'un ou à le tuer activement, par exemple, dans le cas des personnes âgées. Enfin, c'est ça.
Tout dépend des conséquences.
La conséquence, c'est la même chose, et puis c'est sûr.
Ben ça, il faut voir le contexte, parce que vous voyez, c'est aussi une éthique qui va impliquer un contexte, si vous pensez les conséquences. Donc, les conséquentialistes évaluent les actions en fonction de la manière dont les règles morales favorisent leur réalisation. L'utilitariste jugera que mentir est mauvais dans certaines circonstances et bon dans d'autres, en fonction des conséquences qui s'en suivent. Vous voyez, hein, on ne peut pas dire l'euthanasie est bonne ou l'euthanasie est mauvaise. Vous voyez, ce n'est pas ça. C'est attention, il faut voir les circonstances et les conséquences. C'est ça qui fait qu'on est dans une éthique minimaliste. Parce que si vous posez un principe absolu, déjà, vous voyez, vous n'êtes plus dans le minimum. Là, le minimum, c'est la conséquence. Il faudrait quand même étudier, savoir si le principe de la conséquence n'est pas encore plus maximaliste que n'importe quel autre principe. On va essayer de voir ça pourquoi. Mais bon. Il y a un présupposé. La conséquence, au moins, il faut voir. Il faut voir le contexte, il faut voir ce que ça amène. Donc, vous voyez, c'est mal de mentir, peut-être, bien sûr, si ça produit des effets funestes, mais pendant la Deuxième Guerre mondiale, vous vous souvenez, vous cachez des Juifs, c'est bien de mentir. Il faut voir le contexte. Oui.
Du coup, en quelque sorte, on sait que c'est bien juste après avoir posé l'action, il faut prévoir, mais du coup... C'est compliqué de prévoir les conséquences de l'autre.
On va en parler.